Mémoire vive, présentée par Ève Cheftel et préparée par Rachel Rimer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. En 1978, l'écrivain polonais naturalisé américain Isaac Paszewicz Singer recevait le prix Nobel de littérature pour, je cite les jurés du Nobel, son art de conteur enthousiaste qui, prenant racine dans la culture et les traditions judéo-polonaises, ramène à la vie l'universalité de la condition humaine. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Florence Noiville, critique littéraire au Monde des Livres et auteur d'une biographie d'Isaac Paszewicz Singer, et qui a dirigé un cahier de Lerne consacré à ce grand écrivain. Ce beau livre de 200 pages, sorti cet automne, a été publié avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'est un cahier qui est illustré de photos, de facsimilés, et qui contient aussi un grand nombre de documents inédits, comme des nouvelles, des fragments de romans inachevés, des correspondances ou des entretiens avec d'autres écrivains. Florence Noiville, vous écrivez dans l'avant-propos de ce cahier que de nombreux stéréotypes circulent au sujet de Singer. Le facétieux, fabuliste de l'âme juive, le conteur nostalgique qui ressuscite le folklore d'un Yiddishland disparu, et que vous avez voulu, avec ce cahier, explorer, je vous cite, « sous cette eau lisse, les profondeurs de la pensée singerienne, de mettre au jour ce qui se cache sous cette apparente et fausse simplicité ». Pensez-vous que Singer, malgré le prix Nobel, qui rend justice quand même à la dimension universelle de son œuvre, reste sous-estimé, voire méprisé?
Alors en France, oui, sans aucun doute. J'en veux pour preuve le fait que ce cahier ne sorte qu'aujourd'hui. On se réjouit bien sûr de son existence, mais c'est relativement tardif. Et puis cette biographie que j'ai faite, qui date d'il y a près de 10 ans maintenant, a été, par exemple, accueillie avec beaucoup d'enthousiasme dans pas mal de pays. Elle est sortie aux États-Unis, par exemple, ce qui est quand même un paradoxe, y compris en poche. Vous voyez, en France, par exemple, elle n'existe toujours pas en livre de poche. Alors, c'est un détail, bien sûr, mais il est révélateur du fait que Singer est méconnu, je crois, en dépit des efforts. Et alors là, il faut rendre hommage à son éditeur premier en France, qui est Stock, en dépit des efforts de Stock, qui, par exemple, en ce moment, à travers Marie-Pierre Bess, sa traductrice française, est en train de remettre au goût du jour dans des traductions absolument impeccables l'essentiel de l'œuvre. Donc c'est un gros investissement, et malgré ça, je trouve que sa visibilité et sa notoriété et l'amour qu'on lui porte n'est pas tout à fait à la hauteur de l'homme et de l'œuvre.
Et vous, Florence Noiville, pourquoi vous êtes-vous intéressée d'aussi près à Isaac Paszewicz Singer, donc au point de lui consacrer cette biographie? Qu'est-ce qui vous a ému, fasciné, troublé chez Singer? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rencontre avec Singer?
Oui, alors ma rencontre, ça, c'est une question qui est absolument récurrente, qu'on me posait beaucoup aux États-Unis quand je faisais mes recherches, et qui, je vous l'avoue, m'énervait un peu, parce qu'on me disait toujours « Pourquoi Singer? Pourquoi vous ?» Sous-entendu, pourquoi vous qui n'êtes pas juive? Et c'est vrai. Et je leur disais toujours « Mais au fond, regardez, si vous vous intéressiez à Mauriac ou à Bernanos, je ne viendrais même pas à l'idée de vous poser la question. Pourquoi ? Et j'avais envie de dire simplement parce que c'est un grand écrivain qui me touche beaucoup. C'est vrai que j'avais déjà pas mal travaillé sur lui. Et puis un jour Stock m'a demandé. Alors j'ai dit mais moi je connais pas bien cette culture, je ne parle pas yiddish, etc. Et Jean-Marc Roberts m'a dit mais justement moi je veux pas du tout une biographie qui soit dans l'empathie. Je veux quelque chose de distancié. Et c'est vrai que Singer appelle la distance parce que d'abord il a pas que des bons côtés. L'homme a des parts sombres, mais qui n'en a pas? Et puis aussi parce que lui-même est toujours entre deux choses, et ça c'est assez fascinant chez lui. Il est entre deux tout, il est entre l'ancien monde ou le monde d'hier, comme disait Stefan Zweig, et puis la modernité, il est entre la Pologne et les États-Unis, il est entre le yiddish et l'anglais, peut-être on reviendra sur cette question des langues, il est toujours entre deux femmes, il est entre le réalisme et le surnaturel, et ça j'aime beaucoup cette façon d'avoir un pied ici et un pied là, d'être dedans, dehors. Je trouve que c'est assez moderne, je trouve qu'il y a là l'expression d'un doute ou d'une forme d'humilité qui me touchait tout particulièrement, et j'aime ça.
On peut justement donc revenir sur cet aspect assez méconnu et pourtant fondamental de l'œuvre de Singer que traite amplement ce cahier, qui est la question de la double langue, yiddish-anglais. Oui. Pourquoi Singer a-t-il choisi d'écrire en yiddish, dans la langue de personne, comme disait le poète Paul Celan?
On lui demandait ça le jour de la réception du prix Nobel, et il répondait par cette boutade, parce qu'en fait le yiddish c'est une langue morte, et que moi j'écris aussi des histoires de fantômes, et qu'il n'y a rien de mieux qu'une langue morte pour parler de fantômes, ça les rend beaucoup plus vivants. Et puis il disait aussi, je crois à la réincarnation, et quand des milliers de cadavres yiddish retrouveront la vie, leur première question, ça sera quoi de neuf du côté de la littérature yiddish, qu'est-ce qu'il faut lire, etc. Donc voilà, ça c'était bien entendu une boutade. Le fondement de ce choix-là me paraît être un choix moral, éthique, en dehors du fait que bien sûr le yiddish c'était sa langue maternelle, hein, donc c'était quand même le plus facile pour lui. C'est aussi une langue particulièrement savoureuse et riche pour un écrivain, donc pourquoi se priver de ce matériau-là? Mais le choix moral, c'est que il disait, si j'abandonne le yiddish, c'est donner raison à Hitler. Donc je vais être fidèle au yiddish coûte que coûte, et je le serai toute ma vie. Ce qu'il aurait pu ne pas faire, de mon point de vue, il aurait pu très bien changer de langue. Hein, d'autres l'avaient fait avant lui, Conrad, Nabokov, etc. Plus près de nous, Milan Kundera. Donc ça s'est fait, et il parlait très bien anglais au fond, hein, même s'il avait un accent à couper au couteau, donc il aurait pu le faire. Il l'a pas fait, et donc ça l'a conduit à mettre en œuvre une stratégie que je trouve assez formidable et assez fascinante, parce que quand il arrive en 35 aux États-Unis, il a donc dans ses bagages une langue moribonde, deux ou trois manuscrits que personne n'attend parce que personne ne le connaît, et puis $20 en poche. Donc il est très démuni. Mais pourtant, il a quand même une ambition très ferme. Il veut devenir un grand écrivain universel, et être lu par tous, ce qui est particulièrement légitime. Et donc, il se dit, il faut que je sois traduit en anglais. Et là, je ne sais pas si on a le temps d'aller dans le détail de ça, mais il va mettre en place...
Parce que c'est très intéressant.
Oui. Une stratégie à la fois intéressante et amusante. Il avait dit, quand il était jeune, « Moi, je serai le serviteur de deux idoles, les femmes et la littérature. » Et c'est là que ces deux passions se conjuguent sur ce chapitre précis de la traduction, parce que il écrit en yiddish, et ses romans sont traduits, publiés dans les journaux yiddish de l'époque. Et ce qu'il fait, c'est qu'il les reprend.
Forwards.
Le Forwards ou Jewish Daily Forward. Donc il écrit en feuilleton. Il a beaucoup de succès d'ailleurs. Donc il les reprend. Et avec l'aide de jeunes traductrices, qui sont en général des jeunes femmes, il les fait, des jeunes femmes d'origine, natives des États-Unis, donc de langue maternelle anglaise, elles, il les fait passer vers l'anglais, mais en même temps qu'il les fait passer vers l'anglais, donc c'est un travail à deux, il modifie des choses, il modifie des fins, il modifie des chapitres, il change des personnages, etc.
Dans son texte qui s'appelle un harem de traductrice, je me permets de vous interrompre, il dit « Collaborer avec un traducteur permet d'améliorer non seulement la traduction, mais parfois même aussi l'original. »
C'est ça. Et alors, c'est pas seulement améliorer, c'est aussi changer. C'est ça qui me paraît...
Donc, il y a deux œuvres, en fait.
Plus intéressant encore, voilà, c'est ça. C'est que, insensiblement, donc, il va se mettre à élaborer une œuvre en yiddish d'un côté, une œuvre en anglais de l'autre, et que ce sont pas les mêmes. Et ce sont pas les mêmes pour une raison simple, c'est que il voit très bien que l'œuvre en yiddish est très ancrée dans une culture que tout le monde ne partage pas, qu'elle est très codée, entre guillemets, et que donc, il veut à la fois la simplifier et la rendre accessible à tout un chacun, mais sans la dénaturer, bien entendu. Et c'est ça que je trouve assez génial, c'est que quand on reçoit l'œuvre en anglais ou en français ou dans n'importe quelle langue, on voit qu'à la fois elle est très ancrée dans l'Yiddishland et complètement universelle. C'est-à-dire qu'elle parle, moi quand je faisais mon enquête, je suis allée à Stockholm, on m'a dit, sur toutes les étagères, dans toutes les familles, il y a un livre de Singer. Au Japon, il est ultra populaire. Je trouve ça absolument magnifique. Et il résume ça très bien, et il dit la chose la plus bizarre, c'est que plus un être est unique, plus il ressemble aux autres. Donc plus je suis ancrée dans le spécifique, plus je deviens universelle.
La meilleure preuve peut-être, c'est que vous vous y êtes intéressée.
Absolument, voilà.
Mais en même temps, certains yiddishisants, spécialistes du yiddish, notent qu'il y a une, comme Henri Lévy, qui consacre un texte dans... pourquoi ne Singer ne peut pourquoi pas être traduit.
Oui, parce que Singer avait demandé à être traduit de l'anglais, puisque voilà. Du coup, c'était la base la plus accessible.
Et donc, Henry Lewitt dit qu'il y a une déperdition énorme entre le texte yiddish des nouvelles de Singer et leur traduction anglaise. Et Singer lui-même dit qu'il y a une richesse du yiddish qu'on ne retrouve pas en anglais. Il prend l'exemple du mot « pauvre », je crois, il y a mille et une façons d'exprimer la pauvreté en yiddish, également le mot « fou », « meshuga ». Et est-ce qu'il n'y a pas une frustration de votre part et puis de la part des lecteurs non yiddishophones de ne pas avoir accès finalement à l'œuvre originale et une œuvre, on pourrait dire, light ou rabais ou peut-être
Alors, le processus que je vous ai décrit de faire passer un corpus d'une langue à l'autre, moi, je le trouve fascinant d'un point de vue de critique littéraire parce que ça n'existe pas beaucoup dans la littérature. C'est vraiment, dans la littérature mondiale, c'est vraiment un cas à part. Après, comme écrivain, et ou comme biographe, je suis bien consciente de ce qui peut se perdre ou se diluer dans le processus de traduction. Mais ça, il me semble que c'est chacun a son point de vue là-dessus. Les yiddishistes disent effectivement, ils s'en perdent en route beaucoup et l'original était bien meilleur. Et moi, je dis quand même. Le point d'arrivée est suffisamment riche et stimulant et dense et original pour que les jurés de Stockholm aient eu envie de le couronner. Donc voilà, il me semble quand même que dans ce qui nous arrive, il y a là une matière d'œuvre tout à fait remarquable. Je sais pas si on a envie de se reporter à l'original. Alors c'est formidable parce que finalement on a deux œuvres de terrain. Donc voilà.
Il y a un paradoxe de Singer relatif à cette question de la langue, qui est qu'il a fait le choix d'écrire en yiddish à l'heure où le yiddish était mourant, on pourrait dire, et en même temps il a été très critiqué de son vivant. En particulier par le monde juif et par les écrivains yiddish. L'écrivain Sholem Ash, par exemple, disait de son œuvre qu'elle n'était ni humaniste, ni morale, ni de nature à améliorer la société humaine. Visiblement, Singer dérangeait, et pourquoi ?
Ça me fait rire ce que vous citez, parce qu'il y a un bout d'émission de télévision où on le voit interviewé et l'intervieweuse lui dit ça: Sholem Ash dit de vous que votre œuvre, etc. Et puis il la regarde comme ça longuement et puis il lui dit: you know, he might be right. Alors évidemment tout le monde éclate de rire, mais parce que simplement il avait pas envie d'écrire pour changer la société. Il disait même que la littérature ne peut pas changer le monde, qu'elle pouvait même pas le rendre pire. Et il aime pas être dans un système d'idéologie où l'art serait fait pour serait là au service d'une cause. Non, l'art c'est l'art, la littérature ça sert d'abord à divertir en ce qui le concerne. Et il faut bien voir que en plus il est en dehors des modes, mais il est à contre-courant dans ces années-là, 50-60. Des années où on est plutôt tourné vers les recherches formelles, vers, n'oubliez pas, en France, c'est le nouveau roman. Donc lui, tout ça, ce modernisme-là, pour lui, c'est de la mode, il déteste la mode, et il a toujours cette espèce de statut d'outsider dont je parlais au début, voilà.
Il y a un texte d'ailleurs intéressant à ce point de vue, qui résume un peu sa vision de la littérature, qui s'appelle « Quelques conseils à des jeunes et vieux », je crois, et écrivains. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, justement, sur la centralité, par exemple, du récit, quoi. Il dit « N'oubliez pas l'intrigue ».
Oui, c'est ça. Mais ça paraît, à l'époque, ça devait paraître extrêmement rétrograde et extrêmement hors courant. Maintenant, je pense que c'est un peu à double tranchant, parce que c'est aussi ce qui fait qu'on l'a souvent pris pour un conteur, un gentil conteur. Et en fait, c'est ce que j'essaie de réintroduire dans le cahier avec les différents contributeurs qui m'ont aidé à l'élaborer. C'est que j'insiste au contraire sur derrière cette intrigue souvent relativement simple, il y a toujours des couches de sens incroyables, des interrogations métaphysiques qui en fait rejoignent toutes les grandes interrogations modernes sur l'amour, sur le divin, sur le sacré, sur notre présence sur cette terre voilà, est-ce qu'il y a un ordre sous l'apparent chaos, etc. Et tout ça est là, mais avec une très très grande limpidité, et encore une fois, en dehors de toute forme de mode, et je pense que c'est ce qui fait sa force et ce qui fait sa modernité.
La Bible, il cite la Bible comme une, non seulement comme une source d'inspiration, c'est truffé de références bibliques, mais aussi comme un modèle d'écriture aussi. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, il dit, dans la Bible, on ne sait pas ce que les gens pensent, on n'entend que ce qu'ils disent et on voit leurs actes. Et ça, c'était aussi une façon pour lui de se méfier de toute la dimension psychanalytique, dont, là aussi, il considérait un peu comme une mode de l'époque, même si, au fond, c'est pourtant quelqu'un, parmi les écrivains du XXe siècle, c'est quelqu'un qui a été très très loin dans la compréhension, par exemple, de la psyché et de la psyché féminine. Il était absolument passionné par cela. Et il y a une anecdote assez drôle, c'est que quand il recevait le prix Nobel à Stockholm, tous les journalistes étaient là dans le lobby du Grand Hôtel, l'attendant, etc. Puis Singer ne vient pas et on se demande où il est. Et on finit par découvrir qu'en fait, il est dans les escaliers de l'hôtel et est en grande conversation avec une femme de ménage suédoise qui lui raconte ses démêlés conjugaux. Alors ça le passionne. Probablement prend-il des notes mentales comme ça dans sa tête pour un prochain roman. Vous voyez, ça l'intéresse plus que les honneurs et les journalistes et les interviews. Donc, je pense qu'il a vraiment foré très très loin dans la psychologie de la femme. Mais tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Quand on disait qu'il se méfiait des systèmes, il dit qu'il se méfie de tous les mots en isme, hein, bundisme, socialisme, etc. Et contrairement à son frère, hein, parce que souvent on dit mais c'est pas lui qui aurait dû avoir le Nobel, c'était son frère.
On va parler de son
frère. Ah bon, d'accord, voilà.
Justement, dans votre biographie, vous montrez que la mort de son frère Joshua a constitué un tournant dans la vie de Singer. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cet événement a été si déterminant ?
Oui, en fait, donc Israel Joshua Singer, c'était le frère aîné. Ils étaient quatre enfants et tous les quatre écrivaient. Il y avait aussi une sœur, Inde Wester, qui est partie à Londres et qui est aussi un écrivain. C'est tout à fait étonnant. Il faudrait faire une thèse sur ces fratries d'écrivains comme ça et comment ça naît. En tout cas, lui, Joshua Singer, c'était un écrivain très connu dans les années 30, à la fois en Pologne et aux États-Unis lorsqu'il s'exile, parce qu'il va partir le premier. C'est lui qui va faire venir ensuite son petit frère. Écrivain très connu en 36, quand vous regardez les listes de best-sellers aux États-Unis, il y a Autant en emporte le vent et puis il y a Les frères Askenazi qui est l'un des grands livres d'Israël Joshua Singer. Alors bien sûr, on peut comprendre que Singer le petit était un peu écrasé par cette espèce de mentor et de figure tutélaire qu'était la figure du frère.
Et le petit, y compris physiquement, hein, parce que son frère est
absolument
un colosse,
c'est ça.
Bel homme,
dans tous les sens du terme.
Beaucoup de charisme.
Et je pense que ça jouait et ça pesait psychologiquement sur lui. Et puis, malgré tout, il était obligé de lui vouer une gratitude, puisqu'en fait, le frère aîné l'a sauvé, puisqu'il lui a dit, viens, suis-moi aux États-Unis, je vais te trouver une place au Fort Vert, etc. Donc, il le fait partir, il lui sauve la vie. Donc, vous voyez, c'est vraiment à double tranchant. Je pense qu'il y a de l'amour-haine dans cette relation entre frères. Il faudrait la creuser, elle est passionnante. Et en tout cas, quand le frère meurt, terrassé par une crise cardiaque au milieu des années 40, C'est comme si un couvercle se soulevait et Isaac Singer se sent des ailes et peut-être même une certaine responsabilité. Peut-être qu'il se dit bah, maintenant l'écrivain dans la famille Singer, c'est moi.
Il peut enfin advenir comme écrivain.
Oui, c'est, non pas qu'il l'ait pas écrit avant. Hein. Il avait écrit, il y avait un roman, Satan Agoré, qui était sorti en Pologne. Mais ensuite, il y a eu la guerre, il a traversé des années très difficiles, très sombres, je pense, de grande mélancolie et à mon avis même de dépression assez grave, que la présence du frère n'arrangeait pas parce qu'il se sentait tout le temps jugé par le frère.
Il était, il se montrait lui-même assez ingrat vis-à-vis de son frère qu'il a quand même hébergé.
C'est ça, quand je vous dis amour-haine, c'est ça. Voilà, et on le sent dans la correspondance, absolument.
Parce que ce que vous montrez aussi dans votre biographie et aussi dans ce cahier, puisqu'il y a le témoignage de son fils, c'est que il s'est pas toujours comporté comme un mensch.
Non, c'est pour ça quand je vous disais que mon éditeur voulait quelqu'un qui soit capable de montrer sans trop de proximité ou sans empathie également les côtés noirs.
Il a abandonné son fils.
Alors voilà, il a
sa femme, enfin en tout cas.
C'est ça, oui, dans les années 30. Il faut dire qu'il c'était pas un fou de la famille.
Hein. Il
n'avait
pas trop l'esprit de famille.
Il n'avait pas trop l'esprit de famille. Je pense que elle, Génia, elle devait être assez difficile à vivre. Alors elle, c'était le contraire, c'était une militante communiste extraordinairement convaincue. Donc lui pensait partir aux États-Unis et elle voulait partir en URSS. Voilà. Donc il y avait ce différent-là. Je pense qu'il y avait pas mal d'autres litiges qui les opposaient. Et comme on disait, on l'a beaucoup présenté comme un womanizer. Ça, c'est un autre chapitre intéressant, mais je ne sais pas si on aura le temps. Il devait, comment dirais-je, avoir pas mal d'autres relations féminines en même temps, et donc ça devait pas arranger les choses dans leur couple.
Même vis-à-vis de Sol Bellow, il s'est pas toujours bien comporté puisque Sol Bellow l'a aidé.
Alors en fait, oui,
à traduire, à se faire connaître finalement.
C'est ça, en fait, en 53.
Il a jamais payé sa dette.
Quand on traduit pour la première fois Gimple le Naïf, c'est Sol Bellow qui traduit pour, je crois que c'était le New Yorker ou pour une revue, je me rappelle plus très bien laquelle. Et c'est très bien traduit et c'est la première fois que ça fait émerger en fait Singer dans le monde anglophone.
Parce que Sol Bellow est déjà un grand écrivain américain, enfin considéré comme
parce que Bellow est connu, oui, dans les années 50, et puis parce qu'il a lui-même, bien que n'étant pas d'expression yiddish, baigné dans un milieu yiddishophone puisqu'il habitait Chicago, mais ses parents ont été exilés yiddishophones. Et donc il est à même de très bien faire passer un texte d'une langue dans l'autre, tellement bien que Singer se dit oh là là, mais si c'est trop bien traduit, on va dire c'est grâce à Bellow. Alors ça va pas du tout, il faut que je reprenne le contrôle des choses. Et c'est là qu'il met en place son fameux système avec les traductrices.
Avant de finir, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de finalement des héros singeriens, parce que vous avez dit au début que Singer est l'écrivain de l'entre-deux. Et c'est vrai que quand on pense à un personnage, par exemple, comme Green dans Holmes sur l'Hudson, cet éternel irrésolu qui n'arrive pas à choisir entre trois femmes, j'ai pensé que c'était vraiment le héros singerien par excellence. Et vous dites d'ailleurs, les héros singeriens sont des hommes sans qualité, des anti-héros, en proie à une liberté dans laquelle ils flottent comme dans un vêtement trop grand pour eux. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples dans son œuvre ou qui illustrent cette difficile liberté, aurait dit Lévinas, dont il a fait un peu le thème de ses romans.
Oui, en fait, ce que vous décriviez tout à l'heure pour Shadows on the Hudson, Ombre sur l'Hudson, c'est tout à fait la matrice de base de plein de romans. Hein. L'homme et puis les trois femmes. Alors, dans les trois femmes, il y a souvent la vieille, l'épouse, la vieille maîtresse et la jeune amoureuse. Donc, voilà. Et puis, il est toujours l'homme central est toujours ballotté entre les trois sommets de ce triangle. Alors ça, vous allez le retrouver dans Chocha, vous allez le retrouver dans Ennemi, une histoire d'amour, vous allez le retrouver dans beaucoup de... Et même d'ailleurs dans Au tribunal de mon père, ou de nouveau Au tribunal de mon père, qui sont les nouvelles autobiographiques, ou le certificat, on le voit, lui, très bien ballotté, renvoyé comme une balle de ping-pong entre plusieurs femmes qui incarnent différentes polarités. Et alors voilà, il est plus, comment dirais-je, on a l'impression que le libre arbitre, c'est important chez Singer, mais c'est très relatif au fond. Il est un peu le jouet dans la main de quelque chose de supérieur. Et il est beaucoup plus agit par les choses qu'il n'agit sur les choses. Et ça, ça me paraît aussi être un thème de la condition, enfin du héros moderne ou de l'anti-héros moderne. Et à mon avis, il est assez précurseur là-dedans.
Merci Florence Noiville. Je rappelle que vous avez dirigé un cahier de Lerne consacré à Isaac Bashevis Singer et que vous participerez jeudi 17 janvier à 19h30 à une rencontre au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris avec d'autres écrivains, Geneviève Brissac, Agnès de Sarthe et Gilles Rosier. Il y aura aussi Izzy Morgenstern, réalisateur, et cette rencontre sera suivie par une lecture de La Coquette, une nouvelle inédite publiée par les éditions de Lerne, par Gérard de Sarthe. C'était Mémoire vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive.net.